Le journal vous est présenté par Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir. Des éleveurs en colère, des barrages qui s'étendent dans plusieurs régions de France, un ministre obligé d'aller au front et d'annoncer des mesures d'urgence plus tôt que prévu. Nous consacrerons la première page de ce journal à la crise de l'élevage. Vous entendrez un producteur de lait déçu après sa rencontre à Caen avec le ministre de l'Agriculture. Et puis nous serons en ligne avec Anne-Laure Chouin en direct du ministère de l'Agriculture où Stéphane Le Foll se voit remettre un rapport du médiateur censé offrir de premières pistes de réponse. Une présidentielle sous tension au Burundi, l'opposition qui appelait au boycott semble avoir été entendue par la population qui ne se pressait pas dans les bureaux de vote, alors que Pierre Nkurunziza brigue un troisième mandat. Nous verrons cela avec Sonia Rollet à Bujumbura. Et puis parce que la crise écologique est aussi une crise de sens, selon les propos du président de la République, se tenait à Paris un sommet mondial des consciences pour le climat. Reportage de Sandy Dauphin à la fin de cette édition. La colère des éleveurs, Stéphane Le Foll est donc venu l'entendre sur le terrain, à Caen, au contact des producteurs de lait mobilisés depuis ce week-end, avant de rentrer à Paris ce soir pour se voir remettre le rapport du médiateur et faire de premières propositions. Ce matin, le Premier ministre Manuel Valls avait convoqué une réunion d'urgence sur ce dossier brûlant. Un plan d'urgence doit d'ailleurs être annoncé demain, à l'issue du Conseil des ministres. Nous allons revenir dans un instant sur les marges de manœuvre du gouvernement avec Anne-Laure Chouin en direct du ministère de l'Agriculture. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter Yannick Bodin, le président de la coordination rurale de la Manche. Il est sans illusion après sa rencontre avec le ministre de l'Agriculture. Stéphane Le Foll est venu annoncer des mesures d'urgence pour soulager les exploitations les plus en difficulté.
Malheureusement, il y a un bon effet d'annonce. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que le lait ne remontera pas à la hauteur de nos besoins. Et qu'il faut absolument une régulation européenne pour donner une réponse à nos producteurs de lait, nous en France. Une rustine sur des aides, sur des intérêts, sur les prêts, c'est toujours pour apprendre, c'est vrai, mais il faut du fond. Et le fond, c'est vraiment que l'Europe, demain, apporte une solution, un mécanisme de régulation pour donner du prix. Pour donner du prix, et le prix, c'est ça qui donnera la possibilité aux jeunes de s'installer et à ceux qui sont aujourd'hui en difficulté de pérenniser leur exploitation. Je pense que ce soir, beaucoup d'agriculteurs vont avoir un goût amer dans la bouche. Moi, personnellement, en tant qu'agriculteur, et un vrai agriculteur, vous voyez, avec des vraies mains comme ça, voilà, je l'ai là.
Des paroles amères comme celle-là, Stéphane Le Foll a dû en entendre. Ce sont donc des solutions de plus long terme qu'attendent les éleveurs. Des réponses aussi pour savoir qui, des industriels, des abattoirs ou de la grande distribution, n'a pas joué le jeu de l'accord du mois de juin, censé redonner du pouvoir d'achat aux éleveurs. Anne-Laure Chouin, bonsoir.
Bonsoir Marie-Pierre.
Alors vous êtes en direct du ministère de l'Agriculture où Stéphane Le Foll vient de se voir remettre le rapport du médiateur sur ses dysfonctionnements. Ce rapport, précisons-le, Anne-Laure, ne concerne pas le prix du lait mais bien la production de viande. Alors le ministre a-t-il les moyens de répondre aux inquiétudes du monde de l'élevage français ?
En tout cas, la crise est prise très au sérieux par le ministre de l'Agriculture qui s'est finalement rendu à Caen devant les éleveurs en colère pour tester en quelque sorte devant eux les mesures qu'il annoncera demain et dont les premières pistes vont être dévoilées devant nous incessamment. Un plan en deux axes, a priori. Le premier, plus conjoncturel avec des mesures immédiates qui concernent les finances des éleveurs. Les banques ont accepté d'ores et déjà de laisser plus de temps aux agriculteurs les plus endettés pour rembourser leur dette. Par ailleurs, quelques 23 millions d'euros ont été débloqués pour des allègements de charges. Pour ce qui est le cœur des revendications des agriculteurs, à savoir la fixation des prix par les autres acteurs de la filière, abatteurs, transformateurs, distributeurs, eh bien, le rapport remis ce soir va permettre de cibler plus finement qui, dans la chaîne, ne respecte pas les hausses des tarifs décidées le 17 juin dernier, avec en ligne de mire un encadrement plus précis des marges de chacun. Quant à la partie structurelle de ce plan, si l'on ne sait rien de façon précise au moment où je vous parle, puisque des ajustements vont encore avoir lieu dans la nuit. On suppose qu'il sera question de concurrence intra et extra-européenne et de la création également d'un label spécifique, notamment pour la viande, afin d'éclairer le consommateur français sur ce qu'il achète en grande surface notamment. On saura donc demain à la mi-journée le détail plus précis de ces mesures.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Je vous laisse aller écouter Stéphane Le Foll qui doit s'exprimer. Anne-Laure Georges Choin en direct du ministère de l'Agriculture avec les moyens techniques d'Éric Damaggio. L'actualité, c'est aussi à Radio France où se tenait un comité central d'entreprise dans un climat tendu après la grande grève du printemps. Un CCE lors duquel direction et syndicats se sont opposés sur la pertinence d'un plan de départ volontaire de 350 personnes. C'est la seule solution, défend le PDG Mathieu Gallet, pour revenir à l'équilibre en 2017, comme dit-il, l'exige la tutelle. Les syndicats ont mis en avant l'étude d'un cabinet d'audit qui démontre qu'un non-remplacement des départs à la retraite pourrait suffire. Mais l'équilibre financier ne serait alors pas atteint avant 2018. Ce soir, finalement, dans un bref communiqué, la présidence annonce qu'elle examinera cet audit qui sera présenté en conseil d'administration jeudi. Les syndicats en ont pris acte. Fleur Pellerin aura l'occasion d'apporter sa propre analyse sur ce dossier demain matin sur notre antenne, puisque la ministre de la Culture sera l'invitée des matins d'été à 7h30. Une élection dans un calme relatif, mais sous tension. Une présidentielle controversée au Burundi, où le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, brigue un troisième mandat. Un scrutin boycotté par l'opposition, qui ne lui reconnaît pas le droit de se représenter. Et il semble bien, Sonia Rollet, vous êtes sur place à Bujumbura pour Radio France Internationale. Il semble bien que l'appel au boycott de l'opposition ait été suivi. La foule des électeurs n'était pas au rendez-vous.
Pas en tout cas dans les bureaux de vote que l'on a pu visiter. De l'avis même des agents électoraux, les électeurs étaient moins nombreux que lors des précédents scrutins, y compris dans les provinces considérées comme proches du parti au pouvoir. Pas de file d'attente, mais des électeurs qui arrivent au compte-gouttes. Les électeurs sont dans les champs, mais ils viendront plus tard, on dit toute la journée, les présidents des bureaux de vote, même à une heure où les champs étaient vidés de toute population. La participation comme enjeu pour crédibiliser un scrutin boycotté par l'opposition et critiqué par la communauté internationale. Plus de médias au niveau national, en dehors de la radio nationale, peu d'observateurs impartiaux, moins de 200 pour tout le pays. Le président de la commission électorale au niveau national affirmait tout de même ce soir que la participation avait été massive très tôt le matin, à la hauteur de celle des législatives et des communales. Pour rappel, le gouvernement avait annoncé pour ces deux scrutins plus de 95% de participation en province à la mi-journée. On était très loin de ça aujourd'hui, et en particulier dans les provinces contestataires comme Bururi, Mwaro, Bujumbura Rural et Bujumbura Mairie. À la fermeture, les bureaux de vote affichaient moins de 30% partout. Autre signe d'une contestation qui ne faiblit pas. À Bujumbura, la capitale, la nuit dernière, des tirs, des explosions de grenades avaient retenti jusqu'à l'ouverture des bureaux de vote. Les opérations se sont déroulées paisiblement, ont insisté les autorités.
Et les résultats devraient être connus dans 48 heures. Trois journalistes espagnols disparus en Syrie dans la région d'Alep depuis une dizaine de jours. On est sans nouvelles de ces trois journalistes indépendants depuis donc le 12 juillet. La Grèce doit adopter un nouveau train de réforme, notamment sur la justice civile, demain, pour que puissent débuter les négociations sur un troisième plan d'aide de plus de 80 milliards d'euros. Des négociations dont Alexis Tsipras espère qu'elles seront bouclées avant le 20 août. Il s'apprête à une nouvelle journée difficile devant le Parlement, où il a déjà dû affronter une fronde dans son parti la semaine dernière. Ce nouveau vote demain soir constituera donc un nouveau test pour Alexis Tsipras. Sachez également que l'agence Standard & Poor's a relevé la note à long terme de la Grèce de CC- à CC+, ainsi que sa perspective de négative à stable. Une percée dans les discussions ministérielles sur le climat, 4 mois avant la conférence censée aboutir en décembre à un accord mondial pour lutter contre le réchauffement, c'est ce qu'annonce la négociatrice française Laurence Toubiana. Dans le même temps, se tenait à Paris, toujours à l'initiative de Nicolas Hulot, le sommet des consciences sur le climat, réunissant dignitaires chrétiens, sages asiatiques, indiens d'Amazonie, théologiens musulmans, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, bref, des dizaines d'autorités morales rassemblées 4 mois avant cette cruciale COP21. Ce rendez-vous, a déclaré François Hollande en ouverture, part du constat que la crise climatique et plus largement la crise écologique ne se réduit pas à ses dimensions scientifiques, technologiques, économiques et politiques, mais qu'il s'agit d'une crise de sens. C'est un reportage de Sandy Dauphin.
Des responsables religieux, des prix Nobel, des philosophes, des Amérindiens d'Amazonie, des figures morales, ils sont tous venus porter un message comme Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies.
We are close to reaching the tipping point.
Nous arrivons à un point de bascule au-delà duquel le changement climatique causé par l'homme risque de priver mon petit-fils et sa génération de leur droit à une planète saine et durable. Et ce n'est pas de la science-fiction.
À l'initiative de ce sommet des consciences, Nicolas Hulot, l'ancien animateur de télévision, veut titiller les participants de la prochaine COP21 à Paris dans 5 mois.
À Paris, vous n'avez pas le droit d'échouer, vous n'avez pas le droit d'être petit. Et c'est ce message-là que toutes les autorités morales spirituelles et parfois religieuses doivent porter aux responsables politiques.
Et parmi ces messagers, le photographe brésilien Sebastião Salgado.
On a vu sur la côte brésilienne l'année dernière, la mer monte de nouveau et les maisons commencent à être complètement inondées de sable. C'est un grand espoir que j'ai dans un sommet comme celui-ci, où on amène beaucoup de références morales dans la planète, qu'on puisse faire une espèce de retour à la Terre.
Retour à la Terre que le photographe a lui-même entrepris sur sa terre natale au Brésil. Il a replanté en famille plus de 2 millions d'arbres pour capter le carbone.
Le temps demain marqué par des orages qui éclateront dans le sud-ouest, le centre-est et le nord-est au plus chaud de la journée. Il fera 28 degrés à Paris, pas plus de 20 à Brest, 30 à Marseille, 26 à Bordeaux, Dax et Tartas dans les Landes. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée avec Annie Brault.